Le journal Loïc Barrière. Joe Biden salue la décision du Yémen et des Houthis de prolonger la trêve pour 2 mois supplémentaires. 4 Palestiniens tués ces dernières 48 heures par l'armée israélienne. L'appel d'Elsa Lefort à la mobilisation pour faire libérer son mari Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien, est détenu par Israël depuis le 10 mars. 2 employés de la Croix-Rouge tués au Mali. Enfin, Raquel Garrido, candidate de la NUPES en Seine-Saint-Denis, est l'invitée de Pluriel, extrait dans ce journal. Le gouvernement yéménite et la milice Houthi ont accepté de renouveler la trêve pour 2 mois supplémentaires, une décision saluée par Joe Biden qui appelle les belligérants à rendre cette trêve permanente. Selon lui, des milliers de vies ont déjà été sauvées avec le recul des combats. Joe Biden se rendra ce mois-ci en Arabie Saoudite pour une rencontre avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. C'est du moins ce qu'affirme le New York Times. Selon ce journal, sur place, il rencontrera d'autres dirigeants de pays arabes, dont ceux d'Égypte, de Jordanie, d'Irak et des Émirats Arabes Unis. En Cisjordanie occupée, 4 Palestiniens tués en 2 jours dans des incidents avec l'armée israélienne. La dernière personne tuée est un jeune Palestinien de 17 ans qui est décédé après avoir été blessé par balle par l'armée israélienne. Cela s'est passé dans le village d'El Madia, dans le secteur de Ramallah. L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri est détenu depuis le 10 mars dernier dans une prison israélienne sous le régime de la détention administrative, c'est-à-dire sans procès ni accusation. Une cour militaire se prononcera lundi sur sa libération, le prolongement de sa détention ou son expulsion vers la France. Son épouse Elsa Lefort demande à la France d'agir pour obtenir sa libération. On l'écoute.
Actuellement, Salah est détenu en détention administrative, donc sans charge ni jugement. Et il est détenu depuis le 7 mars 2022. Pour le moment, la première durée de détention était de 3 mois, donc elle devrait s'achever lundi 6 juin. Mais comme la détention administrative le permet, cette peine peut être prolongée, où il peut être libéré. Et dans son cas, un troisième scénario peut également intervenir, c'est qu'il est sous la menace d'une expulsion vers la France, puisque le gouvernement israélien a demandé depuis 2020 la révocation de son titre de résident permanent de Jérusalem. Il est actuellement en procédure, mais il est à craindre que cette nouvelle détention, puisque c'est la 6e détention pour Salah, que cette nouvelle détention soit utilisée par les autorités israéliennes pour précipiter son expulsion forcée vers la France.
Une détention, dites-vous, sans charge ni jugement, de quoi est-il suspecté?
Cette détention, elle est basée sur un dossier secret. Donc ni Salah ni ses avocats n'ont accès à ce dossier. Aucun motif ne lui a été formulé après son arrestation, mais c'est une pratique couramment utilisée par Israël, qui permet ainsi d'arrêter les Palestiniennes et les Palestiniens sans avoir à invoquer un vrai motif, mais c'est véritablement utilisé pour sanctionner les militants et les militantes, les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont engagés contre l'occupation.
En clair, le 6 juin prochain, vous saurez si sa détention administrative est prolongée ou alors si Salah Hamouri sera expulsé vers la France.
Voilà, on devrait être fixé d'ici à lundi, lundi étant le dernier délai. On n'a aucun moyen de mesurer ce qu'il en sera, étant donné que cette détention est basé sur un dossier secret, il y a une impossibilité de se défendre. D'ailleurs, depuis janvier 2022, les détenus politiques palestiniens qui sont en détention administrative ont décidé de boycotter, et ils le font tous, les tribunaux. Donc eux-mêmes, ils les boycottent et ils demandent à leurs avocats de boycotter, puisque cette détention est basée sur un arbitraire extrême et que le fait de participer à des audiences et d'être là, d'avoir son avocat qui est là, donnerait l'impression qu'il s'agit d'une procédure judiciaire normale et démocratique, alors qu'en fait, vous pouvez pas vous défendre si vous savez pas de quoi vous êtes accusé. Donc voilà, donc là depuis le début de l'année, les détenus administratifs ne participent plus aux audiences. On ne peut pas savoir ce qui va arriver lundi, et d'ici là, on espère que le président de la République française, puisque Salah est aussi un citoyen français, va mettre la pression sur les autorités israéliennes pour déjà obtenir sa libération. Ça, c'est la première chose, mais aussi et surtout obtenir le fait que ce harcèlement s'arrête, et ça passe par le fait de garantir à Salah le droit de vivre dans sa ville natale de Jérusalem, et également que moi-même et nos enfants, qui sommes interdits d'entrer en Israël, nous puissions vivre avec mon époux à Jérusalem. Voilà, donc d'ici à lundi, on appelle vraiment le président de la République à intervenir avec conviction pour mettre fin à 20 ans de persécution contre mon mari, mais qui est notre compatriote.
Des actions avaient été menées par la diplomatie française lors de ses précédentes détentions?
Oui, notamment, alors sa précédente détention administrative était en 2017-2018, donc c'était déjà sous la présidence d'Emmanuel Macron. À l'époque, la diplomatie française avait qualifié cette détention d'arbitraire, c'est effectivement le cas. Et à l'époque, elle demandait la libération, clairement. Les termes des communiqués étaient assez clairs. Cette fois-ci, il y a quand même un recul dans les mots, en tout cas, dans la formulation. La diplomatie française, maintenant, demande des explications sur cette détention et souhaite sa libération. Donc, c'est sûrement très subtil, mais nous, on a vraiment l'impression que c'est un retour en arrière. Et surtout, dans les faits, on n'a pas du tout, nous... On n'est pas informé de démarches concrètes autres que ce qui peut être précisé dans les communiqués officiels. Donc voilà, on ne sait pas ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. On a vraiment l'impression d'un deux poids deux mesures, que la France ne se mobilise pas autant pour Salah qui est détenu par Israël qu'elle pourrait se mobiliser pour d'autres citoyens français qui seraient détenus dans d'autres pays. Et où là, la France sait être ferme et sait faire respecter les droits de ses citoyens.
Comment vous l'expliquez cela ?
Parce que la France n'a sûrement aucun intérêt et aucune conviction pour se brouiller avec Israël sur un tel dossier, sur la défense d'un prisonnier politique. C'est pas un manque de courage, c'est, je pense, aussi une adhésion. Et un soutien clair à l'occupant israélien. Ça, c'est la première chose. La seconde, je me demande, mais c'est même pas, enfin, c'est ironique de dire ça. Je pense que voilà, Salah est considéré comme un citoyen de seconde zone. Et voilà, donc je pense qu'il est victime de ce double phénomène une France qui veut pas affronter Israël, mais surtout une France qui se tient aux côtés d'Israël et qui a tout intérêt à ne pas avoir ce genre de patate chaude dans les relations bilatérales. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de volonté politique de soutenir Salah Hamouri actuellement.
Aujourd'hui, vous êtes soutenu par une douzaine d'organisations non gouvernementales.
Effectivement, il y a la mobilisation populaire et aujourd'hui appuyée par la mobilisation d'ONG de défense des droits humains comme Amnesty, la FIDH, la CAT et de nombreuses autres. C'est bel et bien la preuve que notre combat est juste. Ces organisations soutiennent notre combat parce que il est clair que c'est une persécution d'un défenseur des droits, puisque Salah est avocat, il défend les prisonniers politiques palestiniens, et c'est toute cette détention, mais également cet acharnement à vouloir absolument le faire quitter la Palestine, ça fait partie d'une batterie de répression que l'occupant utilise contre les Palestiniens et les Palestiniennes dans sa politique coloniale, ses politiques d'apartheid, et voilà, et ces ONG reconnaissent le caractère injuste de ce qui arrive aujourd'hui, enfin depuis 20 ans à Salah.
Elsa Lefort, interrogée par François-Xavier de Calonne. Le patron de la compagnie Algérie Ferries a été limogé par le président algérien, une décision prise alors que de nombreuses personnes en France ont pointé des dysfonctionnements dans la vente de billets. La présidence algérienne évoque des comportements qui portent atteinte à l'image de l'Algérie et aux intérêts des citoyens. Au Mali, deux employés de la Croix-Rouge ont été tués mercredi dans l'attaque de leur véhicule. Cela s'est passé dans la région de Kayes. Il s'agit du chauffeur de nationalité malienne et d'un délégué de la Croix-Rouge néerlandaise de nationalité sénégalaise. Au Burkina Faso, la mort de deux soldats et de quatre supplétifs civils de l'armée. Ils ont été tués mercredi et jeudi lors de deux attaques commises par des djihadistes dans le nord et le nord-ouest du pays. La municipalité de Téhéran a été victime de perturbations informatiques. Le système interne de la ville a été brièvement inaccessible. Fin octobre, l'Iran avait été frappé par une cyberattaque visant son système de distribution de carburant. Enfin, l'invité de Pluriel, ce vendredi à 19h et 23h, est Raquel Garrido, avocate et candidate de la NUPES dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, extrait de cette émission.
Ce sont trois communes du cœur, en fait, de la Seine-Saint-Denis, avec Le Bourget, qui est une petite commune, mais qui est très importante dans la circonscription, avec l'aéroport que vous connaissez. C'est une petite ville plutôt pavillonnaire, avec beaucoup de travailleurs, c'est logique, de l'aéronautique, beaucoup de jeunes. Et c'est une ville qui, dont la nouvelle mairie a battu en fait l'ancien maire de l'UDI aux dernières élections municipales. Donc il se passe des choses nouvelles. Il y a une dynamique, notamment à l'égard de la jeunesse, avec une réactivation, on va dire, de l'activité à l'égard des jeunes. Il se passe là-bas des choses très intéressantes. À Bobigny, aux mêmes élections municipales, également, là, c'est le Parti communiste qui a chassé la mairie UDI, qui avait gouverné pendant un mandat, avec énormément de problèmes de corruption, d'une droite affairiste qui on reproche carrément d'avoir pris des millions d'euros même à l'OPH de Bobigny. Donc sur ce territoire, il se passe des choses nouvelles. Alors il reste Drancy, place forte d'un système, hein, le système de l'UDI en Seine-Saint-Denis. Et bien justement, à l'occasion de ces élections législatives, sur ce territoire qui a besoin vraiment d'un vent nouveau, j'arrive pour essayer de changer les choses.
Alors, de quelle manière les habitants de ce territoire seront-ils bénéficiaires des politiques publiques que mettra en œuvre Jean-Luc Mélenchon s'il devient Premier ministre ?
Bon, alors vous savez que la Seine-Saint-Denis, c'est un département jeune. Plus de la moitié de la population a moins de 34 ans. Donc, nous sommes très jeunes. Et donc, la priorité, c'est vraiment la jeunesse. Et moi, je vois, par exemple, la mesure qui, pour moi, est celle qui parle souvent le plus aux familles et aux jeunes, c'est l'allocation d'études de 1 000 euros par mois pour étudier ou pour aller en lycée professionnel. Ce parti pris de l'importance de la jeunesse est quelque chose qui, évidemment, est au cœur des préoccupations des habitants de la circonscription, mais également la protection de la santé et de l'avenir et de la vieillesse des travailleuses et des travailleurs. Vous savez que 25% des ouvriers meurent avant l'âge de 62 ans. Donc quand nous on dit qu'on va mettre la retraite à 60 ans avec 40 annuités seulement, eh bien c'est une question tout simplement d'avoir le droit à arriver à la retraite en vie et de bénéficier d'une retraite en état de bonne santé. Et pour les femmes notamment de Seine-Saint-Denis, qui sont, vous savez, les premières de cordée. Vous savez, tous les jours, il y a un lot de femmes qui viennent de chez nous pour aller travailler à Paris, pour aller travailler dans l'Ouest, dans les quartiers plus riches, pour s'occuper du ménage, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper des autres en général. Ce sont des métiers difficiles, usants, et je crois que ça change la vie de savoir qu'on va pouvoir bénéficier d'une retraite digne et en bonne santé.
Raquel Garrido, avocate et candidate de la NUPES dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis. Elle est l'invitée de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h. Et puis à 19h30 et 23h30, Pluriel reçoit Yanis Bacha, candidat de la majorité présidentielle dans la 16e circonscription de Paris qui correspond au 19e arrondissement. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient. Excellent week-end à tous.